Bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre, comme chaque dimanche à cette heure-ci, pour Vivement Dimanche et dimanche prochain.
Eh bien, ça tombe bien parce que dimanche, eh bien, ce sera la fin du monde. Et qu'on est jeudi ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question d'Apocalypse, de Jean-Luc Godard, de La Biche, de Lewis Carroll, de Nativité et même de Chafouin. Avec François Morel qui signe La fin du monde et pour dimanche, un spectacle seul en scène pour ce chroniqueur du vendredi sur France Inter, entre fantaisie burlesque et mélancolie existentielle, Benoît Lagan.
Et La fin du monde est aussi en tournée à l'occasion pour le comédien de revenir seul en scène et reprendre ses habits du dimanche.
Les mots n'arrivaient plus ?
Oui, au début, j'ai eu La fin du monde m'a traumatisé en fait.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir, le thème, Xavier, en sera ?
L'humanité.
Rien que ça. 19h35, plateau criminel avec Yann Dacosta qui met en scène l'affaire de la rue de l'Oursine d'Eugène Labiche, une pièce à part pour un quiproquo cauchemardesque qui touche à la morale, adultère, homosexualité refoulée, meurtre, alcoolisme, bref, une comédie humaine, Benoît Lagan.
Et avec cette pièce, Yann Dacosta, passionné de théâtre musical et de cinéma, admirateur de Fassbinder, revisite Labiche en mettant sur scène deux musiciens très Lewis Carolliens.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de Zoé Sfès que l'on ouvre avec le son du jour.
Dans ce climat, Christian Issozi, maire de Nice, dans une semaine, il y a le carnaval de Nice. Est-ce que vous pourriez l'annuler ?
Il n'en est pas question pour l'heure, puisque toutes les dispositions sont prises. Je vous pose la question, est-ce qu'à Paris, on a annulé un seul spectacle ?
Donc, malgré les risques, Nice ne renonce pas à son carnaval ?
J'ai obtenu hier que nous soyons classés au même niveau alerte attentat que Paris.
Ce qui a été fait,
ce qui est une bonne nouvelle pour assurer encore une meilleure protection. D'ailleurs, ce qui s'est passé à Nice a démontré toute l'efficacité du dispositif.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent Goumard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et encore une fois il est frais.
Oui, il est frais, c'est bien, en ce moment je fais la page. Il était donc sur Europe 1, vous l'entendez, c'est Christian Estrosi, maire de Nice, on l'a bien entendu, qui évoquait donc le carnaval. Je rappelle qu'il doit débuter la semaine prochaine, c'est l'un des plus importants de France, voire même d'Europe. Plusieurs milliers de personnes sont attendues, des chars venus du monde entier, une quinzaine de compagnies d'art de rue. Or, un événement en plein air de cette ampleur est problématique en période de vigilance accrue, d'autant qu'en début de semaine, un individu a attaqué trois militaires qui gardaient un centre communautaire juif à Nice à l'arme blanche. Pas question pour autant d'annuler le carnaval, donc, dit Christian Estrosi, qui a demandé des renforts militaires exceptionnels pour l'occasion et qui rappelle toujours que sa ville est la mieux équipée de France en matière de vidéosurveillance.
Eh bien, on est rassuré. On passe tout de suite au dossier du jour. Cet après-midi, près de 200 archéologues ont manifesté de façon spectaculaire. Ils ont investi la pyramide du Louvre à Paris et bloqué les caisses du musée pendant près de 2 heures, ce qui a permis aux visiteurs d'entrer gratuitement. Ils dénoncent les menaces qui pèsent sur l'archéologie préventive et dénoncent sa marchandisation.
Oui, alors c'était un peu l'action de la dernière chance, cette action de cet après-midi, car les archéologues ont déjà défilé par milliers dans les rues de Paris et dans plusieurs villes de province déjà en novembre, puis en décembre, juste avant Noël, sans attirer vraiment l'attention. Et ils veulent défendre l'archéologie préventive. Alors pour comprendre cette revendication, il faut retourner en arrière, en 2001. À ce moment-là, la France se dote, et c'est très louable, d'une loi sur le patrimoine qui vise à protéger le patrimoine lors des constructions en rendant obligatoire l'archéologie dite préventive. Elle crée même à ce moment-là un institut entièrement dédié à cette mission, l'INRAP. Beaucoup des manifestants présents ce soir y travaillent justement. C'est le cas de Pierre Pouana. Il est membre du syndicat des personnels de l'archéologie CGT.
L'archéologie préventive, c'est la sauvegarde plutôt par l'étude scientifique des vestiges qui sont menacés par un aménagement, hein, que ce soit un immeuble, une route, un parking, etc., etc. Elle a vocation donc à concilier en fait les exigences de l'aménagement du territoire avec celles de la recherche archéologique et donc de sauvegarder les sites par leur étude scientifique. On intervient avant une construction, donc on va fouiller, on va relever les vestiges, on va les photographier, on va reporter sur des plans, on va faire des prélèvements. On a un truc en France au travers de dispositifs d'archéologie préventive qui n'existent nulle part ailleurs. Par ailleurs, il y a un besoin très important parce qu'il y a une érosion documentaire, c'est-à-dire une perte des données archéologiques liées à l'aménagement du territoire qui est extrêmement importante depuis quelques décennies. Donc on a besoin de documenter ça. On a besoin, à un moment donné, d'enregistrer cette mémoire collective avant qu'on la perde définitivement.
Le problème pour les archéologues, c'est qu'en 2003, le Parlement a voté un amendement à la loi de 2001 qui ouvre l'archéologie préventive à des opérateurs privés.
Oui, alors même si c'est toujours l'État qui fait le diagnostic, c'est-à-dire pour savoir si oui ou non, au moment de construire, il faut effectuer des fouilles, ces fouilles, maintenant, à partir de 2003, donc peuvent être confiés à des opérateurs privés. Un système qui, en 10 ans, a, selon les archéologues, conduit à des dérives absolument catastrophiques, à la fois pour le patrimoine français, mais aussi pour la profession. L'archéologue Pierre Pouana.
partir du moment où c'est l'aménageur qui est le maître d'ouvrage des fouilles, l'aménageur, il n'y connaît rien à l'archéo, puis il s'en fout, en définitive, de la qualité de la sauvegarde du patrimoine. À partir du moment où on met les opérateurs en concurrence, le critère essentiel de recrutement des opérateurs, c'est le prix. Donc, c'est systématiquement le moins disant qui remporte les marchés, tant et si bien que, je veux dire, au bout d'un moment, ça devient difficile de faire du bon travail dans ces conditions-là. Donc, cette archéologie préventive-là, elle est destructrice à la limite d'informations scientifiques et de patrimoine, mais elle est aussi destructrice pour les personnels. Il y a une très forte précarité, notamment chez les opérateurs privés. Il y a eu aussi des dérives très très fortes dans ce système. Les mecs qui se sont lancés, en fait, dans le business, il y a, pour un certain nombre d'entreprises, des taux de rentabilité qui sont absolument insolents, qui sont supérieurs certaines années à ceux de l'industrie du luxe. Le privé, il cherche le profit, que l'archéologie préventive, c'est une discipline qui est patrimoniale, qui est scientifique, qui touche à la mémoire collective, et on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile de concilier l'intérêt général avec la recherche du profit, quoi. Voilà,
alors dernier exemple en date, justement, l'opérateur Archéo-Loire, l'un des plus importants du marché, qui a déposé le bilan en laissant 25 salariés sur le carreau, plusieurs fouilles inachevées, alors que ses dirigeants avaient dégagé près de 200 000 euros de dividendes au cours de ces derniers mois. Les archéologues de l'INRAP, mais aussi du secteur privé, demandent donc que le ministère propose une vraie réforme de ce système lors de la nouvelle loi sur le patrimoine qui sera présentée au Parlement avant l'été.
Et l'on passe tout de suite au bref, Zoé.
Et l'on ouvre encore avec le Louvre qui a réussi pour la 5e année consécutive son opération Tous Mécènes pour acquérir une œuvre d'art. Cette fois-ci, il s'agissait de la table de Teschen, dite table de la paix, offerte à la fin du XVIIIe siècle par l'Autriche à la France pour célébrer la fin de la guerre de succession de Bavière. Le Louvre, qui veut l'acquérir pour 11 millions d'euros, a réussi à obtenir 750 000 euros de dons de particuliers, 350 000 de la part des amis du Louvre.
11 millions d'euros ?
Eh oui, ça coûte très cher. Une table comme ça, elle est incrustée de pierres précieuses.
Ah bah alors, le procès des pots de vin de Saint-Cyprien s'est ouvert aujourd'hui.
14 personnes, anciens élus, fonctionnaires, chefs d'entreprise de Saint-Cyprien comparaissent. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé dans les années 2000 le maire de l'époque, Jacques Bouille, à accumuler des œuvres d'art payées par la commune ou bien par des pots de vin. Le procès s'annonce complexe puisque le protagoniste, Jacques Bouille, s'est suicidé en prison en 2009. Le procès va durer 3 semaines.
Je m'interroge quand même sur le prix de cette table. C'est 11 millions ou c'est 1 million ?
Non, c'est 11 millions. C'est bien 11 millions puisqu'il y a 198 petits rubis. Si vous la voyez, vous ne douteriez plus, Laure.
Diana Ross a chanté pour la réouverture du King's Theatre de Brooklyn.
C'est la septuagénaire ex-membre des Supremes qui a été choisie pour inaugurer ce théâtre qui rouvre après avoir été abandonné pendant 30 ans. Construit en 1929, il a accueilli les plus grands spectacles de vaudeville, les premières new-yorkaises de plusieurs films mythiques avant de fermer. En 1977, sa réhabilitation, qui aura coûté 83 millions d'euros, faisait partie des priorités du maire de New York, Bill de Blasio, pour faire revivre les quartiers dévalorisés de la ville.
83 millions d'euros, on est sûr des chiffres. La dernière.
Vous êtes affreux, enfin. La dernière, c'est encore une histoire
du
musée. Je suis très musée aujourd'hui, je suis désolée, messieurs. Normalement, je suis très saine, mais là, je suis très musée. C'est un musée, donc, britannique, qui veut tester l'œil de ses visiteurs. L'info est sortie dans le Guardian en début de semaine. La Dulwich Picture Gallery de Londres va remplacer l'un des 270 chefs-d'œuvre qu'elle expose normalement par une copie. Alors, escroquerie, peur du vol ? Pas du tout. C'est un projet de l'artiste Doug Fishbone, artiste américain. Il a volontairement donc remplacé l'un des chefs-d'œuvre du musée contre une réplique qu'il a commandée en Chine via Internet. Il explique qu'elle lui a coûté en tout 160 euros.
On est bien d'accord sur le chiffre.
Là, on est très d'accord sur le chiffre, mais il est à
tout le monde attendait ça.
Voilà, alors ce projet...
Si c'était pas moi, c'est François Morel qui l'aurait fait.
Non, François Morel, il est très sage ici, il est pas chez lui, il est sympathique. C'est pas ça que je voulais dire.
Parce que quand il est chez lui, il ne l'est pas du tout.
Il peut être un peu plus bon, voilà. Donc, ce projet baptisé Made in China, va durer quelques mois. En fait, le but, c'est de forcer les visiteurs à regarder, vraiment à exercer leur œil pour essayer de deviner laquelle des œuvres qu'ils voient est un faux. Ça soulève des questions sérieuses sur la manière dont nous voyons, apprécions et évaluons l'œuvre d'art. Donc, ils ont jusqu'au 28 avril pour poster sur Twitter leurs suppositions avec le hashtag Made in China et deviner donc quelle est l'œuvre échangée. Des t-shirts I failed to spot the replica, je n'ai pas réussi à retrouver la réplique, sont en vente à la boutique du musée, qui compte évidemment aussi sur cette opération pour augmenter sa fréquentation.
Merci Zoé. Avis à tous les auditeurs, si on additionne tous les nombres énoncés par Zoé, on a peut-être les chiffres du loto. C'est ça en fait, cette chronique. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Yann Dacosta, François Morel ?
Non, très bien, on rouvre des théâtres, c'est parfait.
Non, ça gagne bien.
Oui, c'est une sorte de chiffre. On commence.
Le rendez-vous.
Je veux vous parler d'amour.
C'est pas chier.
Hein ?
Ne parlez pas du bonheur, c'est une ordure. Une belle ordure qui te secoue jusqu'au passé, un salopard.
Le bonheur resta muet, comme si son procès ne le concernait pas. Je voulais parcourir le monde, et puis j'ai fait toute une partie de ma carrière chez Continent, comme quoi il y a une logique.
Certains auditeurs seront peut-être surpris que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu dans une crèche, quand on sait la difficulté de trouver une place avant un an et demi, deux ans, une fois de plus. Et il semblerait, je parle au conditionnel, que Monsieur Dieu soit quelqu'un de très très haut placé.
Plateau Apocalypse Dominical avec vous, François Morel, comédien, humoriste, chanteur qu'on a découvert à la fin des années 80 au sein de la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makayev, Les Deschiens. Vous êtes aussi le chroniqueur billettiste du vendredi matin sur France Inter et actuellement en tournée avec votre seule en scène, La fin du monde et Pour dimanche, une tournée qui passe par le théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 28 février avant de se poursuivre un peu partout en France. Dans la bande-annonce du spectacle que l'on vient d'entendre, on a entendu la phrase qui lance votre arrivée, c'est Anna Karina avec son « Qu'est-ce que je peux faire ?» Je ne sais pas quoi faire dans Pierrot le fou de Jean-Luc Godard. À quel moment de l'écriture cette référence est apparue? Puisque c'est elle qui lance le spectacle.
Ah bah au tout début, en fait, il se trouve que moi, je récupère plein de choses que je fais. Et j'ai été chroniqueur aussi dans une émission de Stéphane Bern au début des années 2000 sur France Inter. Et une fois, Anna Karina était l'invitée. Et donc, j'étais parti de cette phrase-là et j'avais essayé de lui donner des idées pour occuper sa vie. Et il y avait plein de choses comme ça. Fait du vélo, fait du sport, fait etc. Et puis, quand, avec Benjamin Guillard, on a créé le spectacle, on s'est dit que ça pouvait être un bon point de départ du spectacle, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Et donc, c'est ce que pose Anna Karina dans Pierrot le fou.
Vous avez écrit Jean-Luc Godard pour pouvoir passer l'extrait du film en ouverture du spectacle?
On lui a fait demander par le... Comment s'appelle? C'est Jean-François Amiguet, je crois, le réalisateur suisse qui l'a approché par... comment il s'appelle? L'ancien directeur de la Cinémathèque de Lausanne. Et Jean-Luc Godard nous a fait répondre « Je n'ai pas cessé de piller, donc on peut me piller tant qu'on veut.
» Benoît.
Alors, il y a ce film qui ouvre le spectacle, et pour autant, le titre, lui, fait référence à Audiard, c'est ça?
Oui, mais un livre d'Audiard, pas un film d'Audiard, un livre qui s'appelle La nuit, le jour et toutes les autres nuits.
Et en quoi en particulier? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre qui a pu déclencher ce spectacle?
Il y avait le titre, La fin du monde et pour dimanche, dans la première page. C'est un très beau livre, célinien, assez désespéré, où il a écrit ce livre après la mort de son fils, qui est mort dans un accident de voiture, dans une voiture jaune. Et il dit, tout le livre sera sous-tendu par cette mort-là, mais je n'en parlerai plus. Et dans cette première page, il a une espèce de désespoir écologique, où il se dit que chaque fois que l'homme a eu une arme dans les mains, il s'en est servi. Il dit aujourd'hui, l'homme a la capacité de détruire la planète, donc il va le faire, la fin du monde est pour dimanche. J'ai trouvé la phrase belle, je ne sais pas pourquoi toutes les phrases avec le mot dimanche me plaisent.
Oui, parce que votre précédent seul en scène, c'était Les Habits du dimanche.
Oui, c'est ça. Après la période d'échange, j'ai fait un spectacle seul qui s'appelait comme ça, Les Habits du dimanche.
Et vous comprenez pourquoi cette attraction, cette fascination pour ce
je
mot de dimanche?
Je ne sais pas, docteur. Je sais pas.
C'était pas vraiment... Eh bien, il faudrait peut-être le savoir au bout de quelques années. François Morel, vous avez lâché il y a quelques secondes le nom de votre metteur en scène, Benjamin Guillard, qui est aussi, alors là, c'est le concours de circonstances, qui est aussi comédien et qui est comédien principal dans votre pièce Yann d'Acosta, dont on va parler tout à l'heure. Quelles étaient les directions pour justement la mise en scène de ce spectacle? C'est le deuxième seul en scène.
Ah, on aurait pu l'inviter, parce qu'il aurait mieux su répondre que moi.
Oh, bah, j'imagine, il joue, donc il ne peut pas. Donc j'imagine quand même que vous aviez des demandes, des pistes de travail.
Oui, en fait, comment on a travaillé? On a essayé d'essayer d'écrire un spectacle qui serait sur les grands thèmes de la vie. Moi, je crois que comme spectateur, moi, j'aime bien qu'on me parle de la vie quand je vais au théâtre et donc de la mort. Même, je crois que si je vais au théâtre, moi, c'est pour qu'on me parle de la mort, en gros, parce que ça m'inquiète, ça m'angoisse. Et quand on est dans une salle et qu'on est plusieurs et qu'on peut en rire ensemble ou en parler ensemble, après, on va mieux et on se sent plus léger. Et je me dis que les plus grands spectacles que j'ai aimés, qui m'ont bouleversé, c'était La Cerisée montée par Peter Brook. C'était Les Petits Pas montés par Jérôme Deschamps, dans le même lieu, au Théâtre des Bouffes du Nord. Et à chaque fois, où c'était les spectacles de Zouk, qui n'arrêtait pas de parler de la maladie, de la mort, etc., et qui nous faisait rire avec tout ça. Et moi, comme spectateur, j'aime ça. J'aime qu'on me parle des sujets. J'ai pas envie qu'on me parle de la cravate de François Hollande quand je vais au théâtre. J'ai envie qu'on me parle d'autre chose. Et donc, avec l'âge, je deviens prétentieux. Et donc, j'ai dit à Benjamin, je voudrais qu'on fasse un spectacle, dans le fond, existentiel, un peu.
Benoît.
Et avec ce que vous dites, une accompagnatrice au théâtre qui serait la mélancolie. Comment vous expliquez cette idée-là, précisément ?
Qu'est-ce que vous entendez par cette expression ? La mélancolie,
ça, moi,
serait, oui, accompagnatrice, notamment au théâtre.
Oui, oui, votre accompagnatrice.
Ben, je ne sais pas très bien. Je crois que ça m'échappe. Je crois que c'est parce que j'ai fait mon malin en répondant à une interview. C'est-à-dire que les gens qui voient le spectacle après me disent ouais, il y a une mélancolie dans ce spectacle-là. Mais je crois que peut-être qu'elle m'échappe aussi un peu. Moi, je me rends compte que dans tous les spectacles que je fais, il y a de l'humour et de la mélancolie. Et dans le fond, c'est ce que j'aime bien aussi comme spectateur. Quand je regarde un dessin de Sempé ou de Chaval, il y a de la mélancolie, il y a quand même beaucoup d'humour. Et c'est la réunion des deux qui me plaît.
Chaque fois, quand vous citez quelqu'un, là, Chaval, par exemple, c'est l'histoire de, des oiseaux sont des cons, c'est ça ?
Notamment.
Tout le formidable, reste, la phrase formidable. Ouais. Même Sempé, c'est quand même un univers bien précis, presque un peu daté. François Morel.
Non, il écrit toujours, enfin il dessine toujours.
Oui, Sempé, oui.
Sempé, ouais, mais moi ça ne me gêne pas. On peut aussi citer Molière, c'est daté, mais voilà, c'est ce qu'ils appellent la culture. On est où là ?
En France.
C'est en France culture, monsieur. Et alors, donc, non, mais par exemple, Sempé, c'est une grande référence pour moi. Enfin, le fait d'avoir ces images qui ont été faites aussi par le même créateur Lumière que celui de Yann, qui est Thierry Vareille, c'est avoir un tout petit personnage sur la grande scène du théâtre du Rond-Point et avoir derrière quelque chose de très grand, pour moi, ça évoque à chaque fois Sempé et son univers et ces personnages-là qui se battent avec tous les grands questionnements. Quoi.
Yann Dacosta, vous qui partagez votre comédien et votre éclairagiste avec François Morel, vous connaissez, j'imagine, l'univers de François Morel. Qu'est-ce qu'il vous évoque, en fait ?
C'est un univers qui est à la fois drôle, poétique et qui n'est jamais, jamais méchant. Voilà, c'est ça que j'aime aussi dans ses chroniques. C'est très tendre.
Benoît.
Dans votre spectacle, il est question de la vieillesse, mais aussi, on l'entendait dans l'abondance tout à l'heure, de Dieu, avec un journaliste de France Bleu, Bethléem, qui assiste à la nativité. Et dans un entretien à Télérama, il y a quelques années, vous expliquiez que vous auriez aimé croire en Dieu et que vous avez d'ailleurs, plus jeune, dans votre campagne normande, été tenté par la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Pour quelles raisons vous étiez tenté par la JOC ? Vous, le fils de cégétiste
Ah ben, c'est-à-dire, moi, j'étais un peu partagé.
François Morel.
Mon papa était à la CGT, ma maman voulait qu'on fasse la communion solennelle, et privée et tout, enfin, toutes les communions possibles, et qu'on aille à la messe le dimanche matin, et c'était bien de croire en Dieu, quoi. Donc, moi, je sais pas, j'aime bien l'idée de la spiritualité. Je me pose des questions. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'étais étonné d'être au monde. Voilà. Et donc, c'est une idée qui m'a toujours poursuivi. Et donc, le fait de se poser pourquoi on est là sur Terre, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, etc., ça m'intéressait. Donc, j'étais allé voir la JOC, mais à la JOC, c'était des curés de gauche. Donc, ils me disaient, il faut se battre, il faut s'énerver contre les patrons et tout ça. Et là-dessus, j'étais absolument d'accord. Mais c'est pas ce que j'attendais, moi, d'une... paroles religieuses.
Votre premier passage seul en scène, c'était en 2000 avec Les Habits du Dimanche. À quel moment de votre parcours êtes-vous arrivé à cette époque-là pour passer à ce registre ?
Bon, je sais pas, ça s'est fait un peu lentement, un peu doucement. C'est-à-dire, j'ai eu 10 années avant théâtral formidable.
Avec Les Des Chiens.
Avec Des Chiens, avec Jérôme Deschamps, avec Macha Makeyev, avec que des spectacles pour moi importants, qui marquaient les gens, qui racontaient en plus des très belles choses et qui m'ont formé, je crois. Et puis, au bout d'un moment, j'ai senti, moi, le besoin de partir pour raconter mes propres propres histoires, parce que aussi parce que j'avais peur de m'ennuyer, parce que j'avais peur de raconter toujours les mêmes choses si j'étais vu seulement à travers le regard de Jérôme et de Macha. Je pensais que c'était peut-être se rendre service les uns les autres que de se quitter à un moment donné.
Depuis Les Habits du Dimanche, donc ce one-man show, il y a eu les exercices de la chronique radiophonique et même un tour de chant. Est-ce que ces deux expériences ont changé quelque chose dans votre façon d'écrire et aujourd'hui même de vous mettre seul en scène?
D'abord, je me mets pas en scène. Vraiment, le rôle de Benjamin Guillard était extrêmement important. Et pour moi, d'abord, c'est un seul en scène, mais d'abord, c'est du théâtre. Enfin, pour moi, c'est du théâtre. Donc, à la fin, j'ai un rapport direct avec le public dans les 10 dernières minutes. Mais dans le fond, quand je fais Janine, cette fan de Sheila, je fais du théâtre. Et je pense que Benjamin, il me met en scène pas comme... pas comme le nouveau rigolo, mais comme un acteur de théâtre. Donc, et moi, je suis très attaché à ça.
Et au niveau de l'écriture, alors, le fait d'avoir une fait de tenir une chronique à la radio, est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon même d'écrire aujourd'hui?
Peut-être que enfin, d'abord ça m'a fait écrire beaucoup, c'est-à-dire c'est comme le vélo, je pense que plus on en fait, plus peut-être on arrive à en faire, et puis je pense que ça m'a donné aussi quelque chose de l'ordre de la liberté, c'est-à-dire que je me suis un peu fabriqué moi-même ma façon d'être comédien et d'être artiste, mais par exemple dans les chroniques que je peux faire sur France Inter, on ne m'oblige pas à être drôle, à manger du gag, etc. J'essaie d'être le plus proche de moi, de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie de partager, ce qui est parfois de la légèreté, de l'humour, des bêtises. Et puis de temps en temps, je ressens plus la violence du monde et je ne sais pas l'exprimer autrement qu'avec gravité. Et tout ça fait que je me sers de tout ça sûrement pour être sur scène et pour raconter ces histoires.
Benoît.
Alors au début des années 80, vous tentez votre entrée au Conservatoire de Paris avec un extrait d'En attendant Godot. Vous n'êtes pas pris et on a pu dire que c'était parce que Michel Bouquet n'aurait pas aimé les libertés prises vis-à-vis de Beckett, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Enfin, je crois, oui. C'était avec Jean-Pierre Lory, qui me donnait la réplique. Je crois que je faisais Estragon et Jean-Pierre faisait Vladimir. Et on avait joué ça sur un tout petit carré, sur presque un torchon. La scène était tout minuscule. On avait mis un bonsaï pour faire l'arbre, etc. Donc c'était minuscule et on n'avait pas respecté du tout les didascalies de Beckett, et je pense que ça... On m'avait dit que ça n'avait pas plu à Michel Bouquet.
Vous avez eu l'occasion de lui en parler depuis?
Non. Non, parce que je n'ai pas beaucoup de regrets. Enfin, j'ai fait mon métier autrement, tout ça. Donc, et puis peut-être que je n'étais pas prêt pour faire le conservatoire. Puis j'ai fait un autre chemin, tout ça. Mais je me souviens surtout que j'avais vu Virelogeux dans les toilettes du conservatoire. Je crois que j'étais au bord des larmes. Et Virelogeux m'a dit, mais il faut s'en foutre. Moi, j'ai commencé à 29 ans. J'ai été instituteur avant. Vous allez faire votre parcours.
Alors ce parcours s'est passé par notamment l'école de la rue Blanche. Et je sais que c'est sous l'influence de certains modèles comme Serrault, Rochefort ou Bedos qui sortaient tous de cette école, que vous y êtes allé. Qu'est-ce qui vous intéressait chez ce type d'acteur, dans cette génération précisément, qui a pu vous aider à vous construire?
À l'époque, il y avait trois grandes écoles. Il y avait l'école de Strasbourg, il y avait le conservatoire et il y avait l'école de la rue Blanche. L'école de Strasbourg, en tant que normand, géographiquement, ça me semblait trop loin.
Impossible.
Le conservatoire, socialement, ça me semblait trop loin. La rue Blanche... c'était possible.
Socialement, d'abord, le conservatoire, pourquoi ça vous semblait trop loin?
Je ne sais pas. C'est pour moi, en tant que fils d'employé SNCF, ça me paraissait trop loin. Je pensais que c'était plus des gens originaux. Enfin, Michel Serrault, Guy Bedos, d'abord, c'est des gens qui travaillaient...
Ça, c'est la rue Blanche.
Ouais, c'est la rue Blanche. Et c'était des gens qui étaient des... qui avait de l'humour et dont... Enfin, Michel Serrault, Jean Rochefort, par exemple, c'est des gens dont la carrière est arrivée un peu tardivement. Et moi, je sentais que j'étais un de ces acteurs qui allait exister sur la longueur. J'étais pas de ces acteurs dont on se disait qu'il faut qu'ils travaillent dans les trois semaines parce qu'ils sont tellement beaux qu'il faut les utiliser pour un Musset, un Marivaux. Non, j'avais le temps, quoi. J'avais le temps d'apprendre mon métier.
Dans quel répertoire on vous distribuait le plus facilement à cette époque-là?
Je ne sais plus, je sais que je joue dans une pièce de Brigitte Jacques, La surprise de l'amour, et je joue le rôle de Pierre. évidemment. Le paysan, mais amoureux quand même. Et puis, je découvre le théâtre qui ne m'a jamais abandonné, que j'ai toujours adoré, c'est celui de Roland Dubillard. On joue en troisième année à Villeneuve-les-Avignon, Naïves Hirondelles, mise en scène par Marcel Bozonnet, qui était notre professeur, et Jean-Marie Blin joue le rôle de Fernand, et Christine Scott Thomas joue le rôle de Madame Séverin et Yannick Renaud joue le rôle de... Ah, j'ai oublié.
Parce que pour l'instant, c'était impeccable.
Ah, Yannick Renaud, ben, je sais le nom des acteurs, mais je ne sais plus le nom du personnage. J'ai oublié. Je sais plus.
Benoît.
Chaque soir, nous demandons à nos invités de nous soumettre un son. Et en ce qui vous concerne, François Morel, ce que vous avez choisi, c'est ni Serrault, ni Rochefort, ni Bedos, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure. Extrait.
Écoutez. Ah! Ah ah! Non, écoutez, mademoiselle, écoutez! Ils l'auront voulu, et ben ma foi, ils l'ont! Mais s'il vous plaît! Il faut avoir touché à la misère pour savoir ce que c'est! Oui, je pense bien. Mais si je comprends. Mais si je comprends. Mais il y a des fois où, hein? Il y a des fois où, exactement.
Identification de ce son et sa signification, François Morel.
Zouk, vu deux fois au théâtre de Caen à la fin des années 70. Une émotion énorme en voyant Zouk. C'est vraiment le grand art du clown et de l'interprète et elle racontait des choses tellement personnelles en faisant rire. Enfin, j'ai une admiration inouïe pour Zouk.
Entre Zouk, est-ce que vous avez pu travailler après avec les Deschiens ? Vous voyez un rapport ?
Oui. Je pense d'ailleurs, quand Yolande Moreau est arrivée aussi dans la compagnie de Jérôme, c'était aussi sa grande référence. Oui, c'était travailler sur soi, sur son histoire personnelle, sur son enfance, sur ses souvenirs, et essayer de faire du théâtre avec ça, avec des choses finalement très profondes et en même temps très généreuses pour que chacun puisse en rire.
Quelle était la place du théâtre justement dans votre propre enfance, François Morel ?
Ouais, assez lointaine. Je regardais au théâtre ce soir, à la télévision. Le théâtre passait peu. Je me souviens avoir vu Le Bourgeois Gentilhomme au cinéma, interprété par Louis Seignet. Ça m'avait beaucoup plu. Et je m'étais dit qu'un jour, peut-être, j'essaierais de jouer Le Bourgeois Gentilhomme, ce qui m'est arrivé quelques années plus tard, notamment grâce à Catherine Yégel. J'aimais bien les humoristes. C'était un peu confus dans ma tête. Je savais que je voyais plutôt des chanteurs, des gens de cabaret. Il y avait des petits chanteurs qui, enfin pas des petits chanteurs, mais il y avait un petit lieu dans lequel il y a des chanteurs comme Marco Augeret, Francesca Solville, Jean-François Panet, qui était un grand diseur suisse, Hubert-Félix Thiéfaine, etc. Plein de gens comme ça sont passés et j'adorais ces spectacles-là.
On est jeudi soir, demain il y aura la chronique du vendredi sur France Inter, vous avez déjà le sujet ?
Oui, j'ai écrit, oui.
Vous écrivez à quel moment d'ailleurs cette chronique ?
Souvent j'écris le jeudi matin.
On peut connaître le sujet avant les auditeurs de France Inter ?
Oui, si vous voulez, je pense que ça va être, enfin, à moins que je change dans la nuit, mais ça m'étonnerait parce que je suis beaucoup trop paresseux et puis j'ai un spectacle à jouer ce soir, donc oui. Je pense qu'après je vais rentrer chez moi à dormir. Je vais parler de Nicolas Sarkozy et de son Nini.
Le rendez-vous, la chronique.
François Morel et Yann Dacosta, on vous retrouve dans quelques instants, mais d'abord place nette tout de suite à la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef. Ce soir donc, l'humanité est au programme.
Oui, le monde est déprimant, pour plein de raisons, mais pour une en particulier, l'intarissable inventivité de l'être humain quand il faut trouver des moyens de faire du profit. Et le numérique, lieu d'expérimentation par excellence, est un laboratoire à ciel ouvert en matière de business model, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de truc dans le milieu. Donc de business model bien retors, voire carrément dégueulasse, je voudrais m'attarder sur trois exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'économie du partage. Alors, je ne parle pas ici... C'est beau, vous allez voir. Je ne parle pas ici d'une économie du partage qu'on pourrait qualifier d'authentique, celle qui consiste à mettre en lien de manière gratuite et désintéressée des gens prêts aux générosités les plus variées, comme par exemple les plateformes de coach surfing, vous savez, le surf sur canapé, où l'on prête son canapé à un inconnu pour la nuit, ou alors les plateformes de covoiturage ou de troc, etc. Je parle de l'autre économie du partage, celle incarnée par des entreprises devenues des géants économiques, telles Uber pour le transport ou Airbnb pour l'hôtellerie, où il s'agit, sous couvert de modernité cool, d'innovation technologique, de substituer à des systèmes existants et évidemment critiquables, en l'occurrence les taxis et les hôtels, d'autres systèmes très rémunérateurs pour ceux qui les organisent, car supprimant les intermédiaires et très peu soucieux de protection sociale. Et puis quand on y réfléchit un peu, est-ce qu'on veut vraiment d'un monde où l'on loue son appartement quand on part en week-end, où l'on se transforme en taxi quand on est en RTT, où on se fait payer pour monter l'étagère du voisin le samedi après-midi? Veut-on vraiment d'un monde où tout devient marchandise et source de profit, notre logement, nos objets, notre temps et au final nous-mêmes? C'est ce que nous propose cette soi-disant économie du partage dans laquelle d'aucuns voient un thatcherisme 2.0, c'est-à-dire une privatisation de tout, et qui est en train de bouleverser avec plus ou moins de violence des pans entiers de l'économie. Mais à la limite, on pourrait se dire que ces bouleversements sont visibles, on peut les contester, et d'ailleurs, nombre d'États aux États-Unis et de pays dans le monde ont interdit Uber, par exemple. Mais il y a des systèmes autrement plus pervers. Prenons Adblock. Alors, Adblock, c'est un programme que vous pouvez télécharger dans votre navigateur et qui, comme son nom l'indique, bloque les pubs. Et Adblock se présente comme une solution cool, encore une fois, le cool,
ouais, c'est un grand...
Vous allez voir, qui vous permet donc de naviguer tranquillement dans un Internet débarrassé de ses messages, bannières et autres fenêtres pop-up qui l'enlaidissent. C'est tout le discours des créateurs d'Adblock, j'ai un chat dans la gorge, qui distribuent gratuitement leur programme. Sauf qu'on sait maintenant qu'Adblock s'est largement enrichi avec un système très simple. Allez voir les géants d'Internet, comme Google, dont le système entier repose sur la publicité, et leur dire « si vous nous payez, on laisse passer quelques pubs ». En gros, Adblock est devenu un rançonneur. Une sorte de bandit de grand chemin numérique, il fait payer un droit de passage aux annonceurs. Et il le fait avec un discours de Robin des Bois. C'est on fait pour le bonheur de l'internaute, vous voyez. Mais sans distribuer, sans redistribuer la rançon. Ce qui me fait penser... un personnage de roman d'Ayn Rand. Vous savez, Ayn Rand, c'est la grande prêtresse du libertarisme américain. Ce roman s'appelle Atlas Shrugged. Et dans ce livre, qui est une sorte d'utopie libertaire où les héros sont des entrepreneurs qui ne veulent que leur propre bonheur et leur fortune, Ayn Rand donc, imagine un pirate qui rançonne les États pour redistribuer aux riches, spoliés par l'impôt. C'est assez beau comme théorie. Le troisième modèle est encore plus retors, mais alors carrément délictueux celui-là. Au départ, un jeune américain du nom de Kevin Bollart crée un site dédié au revenge porn. Alors le revenge porn, c'est la possibilité offerte à des gens qui sont blessés par une rupture amoureuse de poster sur ce site donc des photos de leur ex dénudées. Des photos coquines donc échangées pendant la relation dans le but de les humilier publiquement. Donc inutile de préciser que dans l'immense majorité des cas, ce sont des hommes qui se vengent ainsi de leur petite amie, une fille, pour le bonheur d'autres hommes qui vont aller chercher sur ces sites un érotisme homemade. Mais le jeune homme en question s'est pas arrêté là. Il avait monté en parallèle une entreprise d'e-réputation, donc dédiée à redorer l'image numérique des gens salis sur Internet. Donc en gros, quand une femme contactait le site de revenge porn pour faire retirer les photos d'elle, eh ben elle était renvoyée de manière un peu discrète, vous voyez, vers l'entreprise d'e-réputation qui proposait de les faire disparaître moyennant finance. Bon, il y a eu des plaintes, le jeune homme a été jugé et reconnu coupable de juste 27 chefs d'accusation, dont extorsion de fonds. Bon, à l'issue de cette émération...
Proxénétisme aggravé.
Non, pas lui.
Ah bon.
Donc voilà, à l'issue de cette émération, on pourrait conclure que l'humanité est vraiment une sale race. Et bah, c'est comme ça qu'on va conclure.
De toute façon, on s'en fout parce que la fin du monde, c'est pour dimanche.
Ah bah oui, c'est vrai, c'est rapide dimanche, le jour.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau quiproquo criminel avec vous, Yann Dacosta, metteur en scène repéré depuis le début des années 2000. Vous avez créé la compagnie Le Chafouin avec plusieurs comédiens issus du Conservatoire National de Région de Rouen. Vous êtes en tournée avec votre mise en scène de l'affaire de la rue de l'Oursine d'Eugène Labiche. Actuellement, c'est au Théâtre 13 à Paris. L'histoire de la pièce en deux mots, c'est la terreur de deux petits bourgeois d'avoir assassiné rue de l'Oursine une jeune femme lors d'une soirée trop arrosée. Qu'est-ce que représentait pour vous cette pièce qui est un peu à part en fait dans le répertoire de Labiche pour avoir eu envie de la mettre en scène avec cet acteur, comédien, chanteur?
C'est vrai que l'on ne sait jamais pourquoi on s'attache comme ça à un texte plus qu'un autre. Le vaudeville, a priori, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, puisque le thème du vaudeville, c'est souvent le mari, la femme, l'amant. Et là, il y avait... J'étais baigné dans, à la fois, donc quand j'ai découvert ce texte, j'étais dans Lewis Carroll et j'étais aussi baigné dans Fassbinder, qui étaient deux projets qui étaient en train de mûrir. Et puis je tombe sur cette pièce qui me paraissait en plein entre les deux, à la fois une manière de décortiquer de manière ludique cette histoire de la peur, et puis aussi d'être dans un cauchemar réveillé, comme ça. Et c'était entre les deux, et j'avais... Oui, ça, le vaudeville, ce qui est absolument délicieux, c'est que c'est une forme qui embrasse le public. Les thèmes ne m'intéressent pas, mais la forme est extraordinaire, puisque les acteurs parlent au public, il n'y a plus de quatrième mur, c'est un théâtre très généreux. Et voilà, c'est une vraie gageure aussi de monter ça. C'est très compliqué, très difficile à monter, à jouer.
Quelle est la difficulté?
C'est-à-dire, faut arriver à garder... En tout cas, là, la gageure, c'était de garder l'humour, parce que c'est une comédie, et en même temps, c'est une comédie qui est noire, qui est féroce, donc il faut garder la férocité, faut pas non plus... Je sais qu'il y a eu des mises en scène qui ont basculé un peu trop dans le glauque, et je voulais surtout pas basculer trop dans le glauque, et puis on sait que c'est des histoires... Il y a un aspect très technique, du timing, donc c'est... Et puis en même temps, il faut garder la liberté des comédiens, que ça reste vivant, et c'est compliqué à monter, et même à jouer, en tournée, là on fait une série de 6 semaines au Théâtre 13, et au jour le jour c'est compliqué à garder ce théâtre-là vraiment incisif.
François Morel, ouais.
Là, ça fonctionne vraiment bien, parce que je l'ai vu un dimanche où il y avait...
Un dimanche vraiment, vous adorez ce mot.
Un dimanche où je ne jouais pas, et il y avait notamment beaucoup d'enfants, et ça fonctionnait vachement bien. Mais c'est drôle, parce que c'est une pièce qui est quand même tout à fait à part quoi, dans ce répertoire-là, et qui a intéressé plein de grands metteurs en scène.
Oui, avec des criminels, des alcooliques, des homosexuels refoulés, des adultères, il y a vraiment tout et... tout à boire et à manger dans la pièce. Vous, quel est le regard sur le théâtre de la Biche? Vous qui n'avez jamais cédé aux sirènes du théâtre, on va dire, de boulevard.
J'ai joué du La Biche, en tout cas.
C'est pas la même chose.
Oui. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est magnifiquement écrit. Moi, je me souviens qu'on m'avait proposé de jouer. J'avais joué dans la station Chambaudet. Et je me souviens que j'avais accepté parce qu'il y avait une réplique qui me plaisait trop. C'était, je disais à Madame Chambaudet, au sujet de son amant, il vous aimait comme un soldat aime sa guérite. Et je trouvais ça trop joli.
Benoît.
Alors la pièce était à l'origine avec de la musique, vous avez décidé de garder ces moments musicaux, la musique elle est signée Pablo Elco, qui à ce propos, comme pour François Morel, on vous a demandé un son, et voici ce que vous avez choisi.
Au fond, plus pur qu'un beau ciel, sans nuage, nos yeux.
Vous avez perdu quelque chose?
Mais vous êtes un chat?
Oui, un chat fouin.
Identification de ce son et sa signification, Yann Dacosta.
Donc c'est Pablo Elco qui chante un poème de Lewis Carroll qui est issu de l'autre côté du miroir, et c'est tiré d'un spectacle qu'on avait monté en 2010, Drink Me, Dream Me, qui est un mélange entre Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Et j'ai choisi ce son parce qu'on s'appelle la compagnie du Chafouin, et Lewis Carroll est très important pour moi, c'est vraiment une matrice, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup, moi qui m'a nourri toute mon enfance. Et ce que j'aime, c'est tout ce rapport à l'inconscient. Donc c'est aussi, on fait du théâtre musical avec Pablo. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et tout ce rapport, c'est des contemporains, La Biche et Lewis Carroll. Et pour moi, il y a un lien très fort. Par exemple, c'est un cauchemar réveillé. La Biche démarre par l'englumé qui dort, et la première phrase c'est Monsieur dort encore, ne le réveillons pas. Et à la fin, c'est Mistang qui dort et l'englumé qui dit Ne le réveillons pas. C'est cauchemar réveillé, et c'est vraiment la littérature, moi, qui me séduit, qui a vraiment à voir avec l'inconscient et cette lecture comme ça entre les lignes, plus importante que.
Quand on regarde votre parcours, Elena Costa, il y a un nom qui revient, c'est l'œuvre de Fassbinder, et ce depuis 2009. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez cet auteur qui a eu d'abord un passé de théâtre, puis ce passé a nourri son cinéma? Qu'est-ce que vous avez trouvé chez lui pour justement composer votre propre théâtre?
C'est quelqu'un qui m'a vraiment fasciné. C'est quelqu'un, je crois, avoir vu maintenant, enfin, tout ce qui est possible de voir de ses films, lu toutes ses pièces. D'abord, c'est un artiste qui n'avait absolument pas peur, qui s'est jamais soucié d'avoir du succès ou non. Il alternait des petits films, des films à plus gros budget. Et c'est quelqu'un qui était engagé de A à Z, de la tête aux pieds, voilà, qui s'est complètement livré, abandonné comme ça dans l'œuvre, dans l'art. Et puis il a essayé de comprendre, voilà, il a essayé de comprendre, de décortiquer la peur pour la comprendre, pour ne plus avoir peur. Et voilà, toute son œuvre me fascine. Et c'est un modèle, c'est quelqu'un et qui a énormément de défauts. D'ailleurs, voilà, j'ai monté son œuvre, on les a suffisamment aussi renvoyés, reprochés. Mais j'adore tout, y compris ses défauts. Ouais.
Comment ça, on vous les a reprochés?
Non, parce que c'est un auteur, vous voyez, franchement, c'est pas très fédérateur comme littérature, Fassbinder. C'est quelqu'un qui a tellement divisé les gens, ni la droite, ni la gauche, ni les maîtres, ni les esclaves. Il a tout rejeté, il a tout critiqué, il a mis les gens tout le temps le nez comme ça dans leur caca. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout fédérateur. Et on m'a dit, ah, mais celui-là, il continue de nous emmerder après des années.
François Morel, dans votre parcours, il y a eu comme ça un auteur ou une figure qui a été très, très importante et qui a pu même fonder votre rapport au théâtre, au cinéma?
S'il y a un auteur, moi, ce serait sûrement du billard. Pour moi, ça reste un mystère absolu et j'adore ça. C'est-à-dire que j'avais le souvenir d'avoir vu des comédiens le jouer, comme Jacques Seller ou comme Marc Dudicourt. Je savais que Claude Pieplu, évidemment, l'avait interprété. Et pour moi, s'il y a un mystère, moi, j'adore les spectacles dans lesquels on comprend pas exactement pourquoi on rit, et notamment dans du billard, dans les dialogues, on rit beaucoup, et des fois on sait pas très bien pourquoi on rit, parce que d'abord ça ne nous parle que de choses sinistres, parfois quand on le lit sous sa couette, et on se dit bon, c'est pas très, comment on va réussir à faire rire avec ça, et puis finalement il y a une espèce de chose presque abstraite, de la musicalité des mots qui font que, bon, tout d'un coup le rire vient comme par enchantement à la fin de la phrase. Et pour moi, ça reste un mystère. Et c'est formidable pendant tout le temps de répétition, surtout quand on fait des spectacles comiques, c'est compliqué parce qu'il y a des jours où le premier jour, quand on invente des choses, on rit, mais le troisième jour, un peu moins. Et le 28e jour, on se dit, est-ce que c'est bien rigolo ce qu'on fait? Donc tout d'un coup, on le redécouvre face au public. Et ça, c'est la magie, à mon avis, du théâtre du billard.
Vous avez mis en scène, François Morel, Instant Critique. C'était la pièce sur les débats entre deux critiques du Masque et de la Plume, Jean-Louis Bourré et Georges Charansol. Or, vous disiez à cette occasion ne pas vous sentir metteur en scène.
Oh, bah peut-être. Peut-être. Je me sentais surtout concepteur de spectacle. C'est-à-dire qu'on faisait du théâtre avec quelque chose qui n'en était pas au départ. Mais finalement, je crois que finalement, j'en ai fait de la mise en scène. Et puis, j'avais des très bons comédiens. Donc ça m'a aidé.
Yann Dacosta, vous êtes parti un temps en Russie, auprès de Kamaginkas. Qu'avez-vous appris du théâtre en allant là-bas? Vous cherchiez quoi?
D'abord, c'était dans le cadre d'une formation, l'unité nomade de formation à la mise en scène, au Conseil international supérieur d'art dramatique. Et toutes les promotions, on nous envoyait en Russie, parce qu'il n'y a quasiment que là qu'on enseigne vraiment la mise en scène. Les Russes, qui ont une vraie méthode technique de mise en scène. Et ce qui est assez super, c'est qu'on a l'impression de faire nos bars là-bas. C'était ici, le metteur en scène, on mise vraiment sur l'originalité, sur la singularité, sur le parcours. Alors que là-bas, on avait fait un stage là-bas qui était sur Dostoïevski. Donc en plus, c'était sur l'adaptation du roman pour passer au théâtre. Donc c'était un sujet, moi, qui me passionnait, qui m'intéressait beaucoup. Et c'était Dostoïevski. Et là-bas, tu fais du Dostoïevski, tu ne fais pas du Yann Dacosta ou quoi que ce soit. Tu fais du Dostoïevski. En fait, tu fais tes bars. Et c'est vraiment une école de l'humilité. Et c'est une école qui t'apprend que si tu ne montes pas l'auteur, il va se venger très fort. Donc c'est ça que je retiens là-bas, de ça.
François Morel, dans votre parcours de comédien, est-ce qu'il y a eu un professeur qui vous a plus particulièrement marqué et dont les cours, les leçons vous servent encore aujourd'hui dans votre conception de ce métier?
J'avais des très bons professeurs à l'école de la Rue Blanche, en tout cas des gens qui m'ont donné confiance et qui sont Brigitte Jacques et Marcel Bozonnet. Après, j'ai eu des grands metteurs en scène comme Jérôme Deschamps et comme Jean-Michel Ribes qui m'ont apporté plein de choses. Ouais, non. Quoi ?
Non, non, ouais, quoi ? Ou je pensais à Brigitte Jacques ?
Ah, Brigitte Jacques, d'abord, elle avait, je crois que si j'ai fait l'école de la rue Blanche, c'est parce qu'elle elle m'a regardé comme il fallait, comme elle a eu confiance en moi tout de suite, elle a senti que je pouvais être un homme de théâtre ou que j'allais pouvoir devenir un homme de théâtre. Et j'étais assez différent de plein de gens qui venaient des cours privés, etc. Je n'avais pas tout à fait cette culture-là. J'avais fait une maîtrise de lettres, j'avais plutôt une approche... livresque, j'aurais pu devenir peut-être un professeur de français ou choses comme ça. Et j'aimais trop le théâtre, et j'aimais trop le théâtre avec les pieds sur une scène. Et elle l'a ressenti. Je sais pas, elle m'a apporté plein de choses. Comment réinventer un texte, comment. Elle avait un regard surtout de metteur en scène. Je sais pas, moi je découvrais un peu un autre théâtre. Moi je venais plutôt j'ai vu plein de spectacles de chansons, de cabaret et des spectacles de plutôt plus populaires. Et avec Brigitte, Jacques, je pense que j'ai plus eu la sensation de la mise en scène, quoi.
Votre maîtrise en littérature, c'était sur quoi ?
C'était l'analyse d'un spectacle, Le Nouveau Menozza, de Lenz, monté par Michel Dubois au Théâtre de Caen.
Et vous, Yann Dacosta, les enseignements qui vous ont marqué ? Alain Françon, par exemple ? J'ai pu lire son nom dans votre...
Oui, bah, ça c'était aussi dans le cadre du master mise en scène et dramaturgie, il y avait un stage avec Françon. Et oui, j'étais assistant d'Alfredo Arias pendant plusieurs années aussi. C'est des parcours, c'est des rencontres avec des artistes. C'est pas seulement lui, c'est aussi les gens qui l'entourent, que ce soit en production, les artistes. Voilà.
Vous avez été comédien un temps ? Alors, vous êtes essayé à la comédie ?
J'ai fait le comédien parce que quand on rentre au conservatoire, je suis entré au conservatoire de Rouen en disant je veux être metteur en scène. Mais je vais faire l'acteur parce que c'est comme ça que je vais apprendre. Et bien sûr, c'est la seule manière d'apprendre ce dont a besoin un comédien sur scène. Donc, mais même petit, hein, je ne jouais pas à faire l'acteur, je déguisais les autres, je les mettais en scène. J'ai toujours voulu être metteur en scène, ça c'est sûr. Et je n'envie pas les acteurs d'être sur scène, mais j'adore le faire, j'apprends beaucoup.
Et quand vous avez fondé la compagnie du Chafouin, quel était le théâtre que vous vouliez défendre à ce moment-là ?
C'était trop flou, j'avais aucune idée. Franchement, on était tout jeunes, on était au conservatoire, j'avais envie d'être avec mes amis et qu'on... Voilà. J'ai commencé par Copie. Voilà, c'est Copie, c'était une vraie découverte. J'ai monté deux pièces de Copie, c'était... Et en plus, que c'était déjà du vaudeville, en fait. C'était du vaudeville, sauf que c'était pas des amants dans le placard, c'était des bébés dans les valises, mais c'était du vaudeville.
Et toujours de la musique, depuis les débuts quasiment. La musique, ça devait être forcément dans votre théâtre. Comment ça s'est imposé ?
Ouais, ça, je sais pas... Tout à l'heure, on vous demandait à François comment était présent le théâtre quand il était petit. Moi, il n'était pas présent chez moi, on n'allait pas au théâtre et j'étais un milieu ouvrier aussi. Par contre, il y avait de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment ce qui me lie à mes parents, c'est la musique. Ce qui m'a toujours, j'écoute de la musique 24 heures sur 24.
Musicien aussi, par ailleurs ?
Non, j'ai fait du chant, j'ai fait des choses comme ça, mais je n'ai jamais appris à jouer d'instrument. Mais par contre, une sensibilité à la musique. Et voilà, ce qui m'a toujours séduit, c'est le théâtre musical, l'opéra, l'opérette. Tout ça. Ouais.
Votre formation au niveau du chant, elle est passée par qui, François Morel ?
J'ai un professeur qui s'appelle Raymond de Viré et que je vais voir régulièrement. Mais enfin, je trouve que je suis un élève trop fantaisiste. voilà.
C'est quoi un élève trop fantaisiste ?
Pas assez sérieux, parce que je tourne beaucoup mes spectacles, donc je viens pas la voir assez souvent. Oui, ça m'intéresse, quoi. Mais puis j'ai fait deux spectacles de chansons, ouais, donc j'étais un peu obligé de.
Ah non, un disque aussi, des disques aussi.
Ouais. Ouais. Mais j'adore ça, la chanson.
Qu'est-ce qu'elle vous a fait travailler plus particulièrement ?
La respiration, de ne pas lever les épaules, de descendre mon diaphragme. Et je ne sais pas, elle me dit que la voix doit être située au niveau de l'anus, mais je n'ai jamais tout à fait compris.
Musique.
Merci à nos invités, François Morel, La fin du monde est pour dimanche. C'est jusqu'au 28 février au Théâtre du Rond-Point à Paris, puis en tournée dans toute la France, notamment passage par Flers, votre ville natale. Ce sera le 12 mars, ce sera le retour de l'enfant prodigue, on imagine. Toutes les dates, en tout cas, sont disponibles sur le site de l'émission. Yann Dacosta, L'affaire de la rue de l'Oursine, c'est jusqu'au 15 février au Théâtre 13 à Paris. En tournée aussi, par ailleurs. Et là aussi, toutes les dates sont sur la page du rendez-vous. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain,
quelques lignes infimes pour les crimes infâmes, tout un peuple infirme et les larmes d'une femme.
Demain, émission Pas de deux avec le musicien Rélema que l'on vient d'entendre, avec à ses côtés le directeur de la danse de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied. Les désannonces, Hippolyte.
C'était Le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssatou Ndoye et Hippolyte Babilote, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan et Jacques Azubert, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h53, vous êtes bien sur France Culture ? Eh oui, sur France Culture, François Morel.